a tendu sa pelouse, et quand elle a tendu sa pelouse, il y a un fil qui s'est mis autour de l'hélice. Elle a éteint la tondeuse, et puis elle est partie chercher cette hélice, ce fil. Et quand elle a pris ce fil, l'hélice s'est mise à tourner. Elle a les deux pouces sectionnés, là les deux doigts, et là, ici, comme ça. C'est fini, elle ne pourra plus travailler. Elle danse. Quand elle a vu ça, elle voulait récupérer les bouts de doigts, mais les pies sont arrivées et elles ont bouffé les doigts. Et vous savez, à chaque fois, maintenant que je parle de reconnaissance, et quand je travaille, je regarde, mais j'ai besoin de mes pouces, j'ai besoin de tout ça. Et je pense à elle, je dis, Seigneur, c'est fini pour elle. Sa vie est terminée au niveau physique, elle est handicapée. On devra la servir. Alors soyons reconnaissants quand on a tous nos membres. Quand on a tous nos membres, toutes les parties de notre membre ont une utilité dans notre corps. Et en tant que membre de l'Église, alors c'est encore mieux. Chacun d'entre vous ici, on a notre place, on a notre utilité. Ne soyons pas dédaigneux pour quelqu'un qui aspire ou qui lave ou qui monte sur une échelle pour réparer le truc, pour l'entretien. Non, nous avons besoin de ces personnes Dieu a besoin de ces personnes. Amen. Alléluia. On va être de plus en plus reconnaissants. Bon, on va partir sur une bonne note maintenant. Dieu accomplit toutes ses promesses, on l'a chanté. En voyant toute la louange, jeudi, quand je suis venue à la répétition de louange, j'ai dit, Seigneur, c'est pas la peine que je prêche. Parce que tout ce que je vais dire, on l'a chanté. Donc, qu'est-ce que je vais encore ajouter? Mais tant pis, on ajoute. Et je vais rester, sur le verset, chercher d'abord. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Et donc j'ai intitulé mon prêche « Dieu, ma justice ». Dieu, ma justice. Et donc on va lire dans Daniel une belle histoire. Et on va commencer par... pour mettre dans le contexte, Daniel 1 et le verset 1 à 6. Qui connaît Daniel, le prophète Daniel? Il n'y en a pas beaucoup. Vous ne connaissez pas le prophète Daniel? Ouais. Si, il ne faut pas être timide. Vous allez voir, on pourra s'identifier à Daniel dans certains points. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc on est dans une période de crise. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, c'est un peu compliqué, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, où il y a de grands critères, ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Chaldéens ou Chaldéens, peu importe. Moi, j'aime bien Chaldéens. Bon, on peut dire Chaldéens. Et on ferme la parenthèse. Donc, le roi savait qu'en Israël, il y avait des gens particuliers. Israël était le peuple de Dieu. Il y a quelque chose qui émanait de ce peuple. Et donc, il demande à aller chercher des jeunes pour le servir dans son palais. Donc ça, c'est un peu. Et donc, il y a 3-4 jeunes gens qui vont y aller. Les noms des 4 jeunes gens, voilà, on les avait. Voilà, le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années. au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Voilà les quatre jeunes hommes qui sont arrivés au service du roi. Et là où je voudrais m'arrêter, c'est que ces jeunes hommes ont grandi certainement dans une famille où les parents enseignaient l'écriture, où les parents leur parlaient de leur Dieu, où les parents leur parlaient de tout ce que les ancêtres ont fait, ont vécu. Et là, je m'arrêterai pour nous. Nous, en tant que parents, c'est important. C'est quand on voit des petits-enfants qui sont là, sur les bras des mamans, sur les genoux des mamans, ou déjà même quand l'enfant est dans le ventre de la maman, on doit déjà parler du Seigneur. On doit déjà donner des paroles prophétiques, des paroles de vie sur nos enfants. Et lorsqu'ils naissent, même s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas nous répondre, parlons-leur du Seigneur. Prions pour eux. Parce que tout ce qu'ils entendent, un jour, va leur servir. Un jour, ils seront là devant des défis et ils vont dire, « Ah ah, voilà, j'ai entendu ça, on m'a appris ça, donc j'agis comme ça parce que j'aime mon Dieu. » Et encore une petite anecdote sur ma maman. Parce que quand je lis ça, je pense à ma maman. Ma maman est née en Ukraine. Et à un moment donné, à l'âge de 16 ans, elle a été déportée en Allemagne pour le travail. Elle n'était pas chrétienne, elle était de foi catholique, comme tout le monde. De foi, non, même pas catholique orthodoxe. Et une fois, elle allait paître les vaches avant sa déportation. Et elle a entendu des chants. Des chants qui ont touché son cœur et qui l'ont amené à aller vers les personnes pour dire « Mais qu'est-ce que vous chantez ?» Et ces jeunes filles ont dit « Eh bien, viens, on t'invite. On t'invite à une réunion. » Et elle est partie à cette réunion. Et elle s'est convertie. 3-4 jours plus tard, les Allemands arrivent et elle doit partir. Eh bien, vous savez, ce moment-là, pour elle, c'était son rendez-vous divin avec Dieu et il lui a donné des forces pour survivre à ce travail forcé en Allemagne. Et aujourd'hui, elle est là, elle a 93 ans et elle est à Dieu. Et c'est ça que l'on doit saisir quand on est jeune, quand on est moins jeune. Il faut saisir la foi en Dieu pour aller de l'avant. Et j'arrive à mon histoire. Donc, nos jeunes gens, nos jeunes ados, là, je vois qu'il y a Nicolas, il y a Cassandre, il y a Esther là-bas. Il y a encore des ados. Il y a Louis, il y a encore là-bas des ados. Vous voyez, c'est important d'emmagasiner la foi tant qu'on est jeune pour pouvoir faire bloc quand les tentations vont arriver. Donc, nos compagnons sont en captivité à Babylone. Donc, ils avaient plus ou moins 15 ans. Et alors, je voudrais faire une démonstration. Donc, je vais appeler Nicolas. Donc, Nicolas va représenter Daniel, qui est arrivé en captivité à Babylone. Et il va servir le roi. Donc, il a un grand défi. Papa, maman ne sont plus là. La famille n'est plus là. Je suis étranger dans un pays étranger. Mais il y a un esprit sur lui, l'esprit de Dieu qui est sur lui. Et donc, il va faire face avec force et détermination devant le défi. On va leur demander de manger tous les mets du roi. Et qu'est-ce que tu dis? Non. Vous voyez, il ne connaît pas l'histoire de Daniel. Pascaline et Fred, ils connaissent pas l'histoire de Daniel. Et pourtant, je l'ai eu à l'école du dimanche et je l'ai fait. Je l'ai faite. Hein? Alors, ça, c'est rentré là et c'est sorti là. D'accord? Donc, Daniel est arrivé, il avait à peu près cet âge-là. Et l'histoire que je vais vous raconter, eh bien, elle arrive. Antoine, viens ici.
Tu connais l'histoire de Daniel ?
Voilà.
J'ai pris les vacances et tu dois travailler.
Non, tu ne vas pas travailler, tu vas certainement faire la représentation. Donc, toi, tu es Daniel, mais Daniel, déjà beaucoup plus âgé. Quand Daniel va rentrer dans la fosse aux lions ? D'accord ? Vous voyez la génération qui sépare, le temps qui sépare ? Je suis arrivée à 15 ans et j'arrive 16 ans. C'est Daniel, hein, 15 ans. Plus ou moins. Et là, il y a plus ou moins 80 ans, Daniel, je vais lire l'histoire, Daniel a plus ou moins 80 ans lorsqu'il est jeté dans la fosse aux lions. Donc, vous voyez la différence, le temps qui est passé, sa foi, la foi qu'il avait là, à 16 ans, eh bien, elle a de l'expérience là, 80 ans. Bon, il n'y a pas 80 ans, hein, mon mari. C'est parce que c'est le plus âgé d'ici, donc c'est pour ça que je le prends. Donc, sa foi a grandi, il a pris de l'expérience, et nous allons lire le récit. Donc, vous pouvez aller vous asseoir. C'est pour que vous ayez un peu un visuel du temps. Donc, on va lire le chapitre 6 de Daniel. On va le lire en entier, comme ça nous allons comprendre. Pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas l'histoire de Daniel, tout ça, vous allez comprendre. Donc, Darius, donc c'est le roi après Nebuchadnezzar, trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Alors, des satrapes, on pourrait dire des ministres, des responsables, enfin, vous voyez, des gens qui ont une responsabilité. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel, nous voici donc avec Daniel, surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, on entend bien un esprit supérieur, Daniel. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Vous voyez, Dieu est fidèle, mais Daniel est fidèle. Il n'y a rien de mauvais, il est bon. Il est intègre. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc vous voyez, niveau professionnel, niveau de son intégrité, ils n'ont rien trouvé. On va aller chercher où. Vous voyez l'histoire de Satan là. Les hommes qui sont poussés par un esprit de jalousie, ils vont lui faire ils lui tendent un piège. Où j'étais ? Et ces hommes dirent, non, c'est pas là où j'étais. Voilà. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius, vis éternellement ! Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Donc, ils arrivent devant le roi. Et le roi, il se dit, il a été piégé, à mon avis. Parce que le roi aimait beaucoup Daniel. Donc, je crois qu'il va signer après. Hein. On continue. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Là, on voit l'attitude de Daniel. Il est dans la paix. Il est tranquille. Le défi, il va le passer avec la force que Dieu lui a donnée. Et je reviens, parce qu'il avait la foi en Dieu. Il a traversé beaucoup, beaucoup de choses, d'expériences. Et il se dit, je continue à louer mon Seigneur. Il ne panique pas. Il ne change pas ses habitudes. Il continue de prier, la fenêtre ouverte vers Jérusalem. Que se passe-t-il avec les satrapes? Le verset 12, s'il vous plaît. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se représentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine. » Selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, oh, vous voyez l'accusateur là, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois le jour. Et là on voit, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il aimait beaucoup Daniel, le roi. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Donc il cherchait des solutions, il cherchait des solutions. Il voulait sortir Katimini, mais ça n'a pas marché, il a signé. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Le roi était conscient que Daniel était différent des autres. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse aux lions. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Oh, j'aime bien ça. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Ouh. J'ai lu cette histoire tous les jours pendant 15 jours. Et je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, je sers le même Dieu. Nous servons le même Dieu. Je sers le même Dieu. Et ben Dieu doit faire la même chose avec moi parce qu'il nous aime. Il est là. Ses promesses sont certaines. Alors, j'étais un peu troublée. L'attitude de Daniel était belle. Il avait confiance en Dieu. Sa confiance en Dieu, sa persévérance, son intégrité, sa fidélité. Oh, il y a encore plein de choses ont fait que la gloire de Dieu a pu se manifester là, sous le règne de Darius, la fosse au lion. Et vous savez, une fosse, on creuse, plouf, il y a un trou. Et les lions, ils ne sont pas rentrés par le trou. Ils rentrent par un autre tunnel, vous voyez. Et vous avez vu à la fin. Daniel, lui, on l'a jeté, la gueule des lions a été fermée. Puissance de Dieu. Il a certainement pris comme oreiller le flanc d'un lion. Et il a peut-être dormi toute la nuit. C'est possible, hein, je ne sais pas, hein, mais j'essaie de m'imaginer. Parce que les lions sont devenus des agneaux. Ce sont devenus des agneaux. L'ange était là, il campait autour de Daniel. Il n'y avait même pas de blessure, rien du tout. Il ne sentait même pas le fauve. Bon. Ah, j'aime bien cette histoire. Oh. Alors, Nicolas, tu la lis, hein, et tu me la raconteras après à ta façon. Hein, comment tu l'as interprétée. Ah, c'est vraiment une belle. Donc, il louait Dieu. Il n'a pas eu peur, Daniel, de ses ennemis. Et parfois, nous, quand on a un défi devant nous, quand on nous dit, ben, si tu fais ça, ben, moi je vais te faire ça. Et alors on change notre plan. Ne changeons pas nos plans. Restons fidèles à Dieu. Si j'ai dit, je vais louer mon Dieu, je vais m'être engagée, je ne vais pas changer mon engagement parce qu'on me menace. Vous savez, le monsieur qui habite au-dessus du Porsche. Il est contre l'évangile, il est contre nous, il est contre cette église, et alors contre moi, il s'est plaint. Il ne sait même pas me regarder dans les yeux, il ne sait pas me dire bonjour. Et quand je fais mauvaise mine, parce que je ne suis pas contente par ce qu'il fait, eh bien, il commence à crier sur moi et il me harcèle. Alors ça s'est passé vendredi. On avait rendez-vous avec le monsieur des extincteurs. On arrive à 8 heures. Il y a une voiture juste en face du portail. Oh, qui est ? Il n'y avait personne dedans. Bon, moi, je sors de la voiture, j'ouvre le portail. Antoine est parti mettre la voiture ailleurs. Et après, je vois, c'est lui qui sort. Alors, j'ai fait ça. Il a commencé. Oh là là. Bon, après, heureusement que j'ai un homme qui prend ma défense. Il est parti, il l'a calmé. Mais vous savez, on est en face de tels gens dans tout, partout, partout. Quand Christ est en nous, c'est visible. Et quand il y a un esprit mauvais dans une personne, eh ben, il nous attaque. Et alors là, j'ai dû dire, ben, Seigneur, je n'ai pas fait comme Daniel, je n'ai pas été calme. J'ai montré mon mécontentement. Mais parfois, ce monsieur, il faut lui faire. Oh, vous voyez, il m'insupporte. Parce qu'il n'a même pas la politesse du monde, la politesse. Là, il n'y a pas de politesse. Il taille ses haies. Moi, je suis là, je vais à la poubelle. Il ne me dit même pas bonjour. Ben, je dis, moi, je ne vais pas te dire bonjour. Il ne me regarde pas, il m'ignore. Je dis, Seigneur, on n'est pas des chiens, on est des hommes et des êtres humains remplis de toi. Et c'est ma question là. Je dis, Seigneur, j'ai besoin encore de la sagesse, d'un esprit supérieur pour pouvoir le libérer, ce monsieur. J'ai besoin de le libérer. Alors je vais prier pour ça maintenant, encore plus fort. Parce que la promesse est là. Donc, notre ami Daniel n'a pas été dévoré par les lions, alors qu'ils étaient affamés. On les a affamés. Fou ! Daniel, pouf ! Les lions, pouf ! Et il le déchiquette. Mais non, il a été sain et sauf. Et là, on assiste au triomphe de la puissance de Dieu sur l'ennemi. Le triomphe de la puissance de Dieu sur l'ennemi. La foi, la confiance, l'amour de Dieu, l'intégrité, la persévérance, la relation intime avec Dieu, l'engagement ferme et stable, la dépendance de Dieu, la détermination, son expérience a fait que Dieu s'est souvenu de Daniel. Parce que Daniel avait Dieu avait un plan pour Daniel. Il a encore vécu 20 ans, je pense, après. Je crois qu'il est mort à l'âge de 100 ans. Dieu avait un plan. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Bon, nous, on est à la retraite, mais on bosse toujours. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu est en nous. On est passionné de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui meurent autour de nous. Il y a beaucoup d'ennemis qui veulent nous broyer. Eh bien, si on reste assis sur notre chaise, eh bien, plus ou moins, on va tomber après. Donc, il faut bosser. Il faut travailler. Il faut être fidèle à Dieu, fidèle dans son engagement. Le roi lui-même, maintenant, l'attitude du roi, vous voyez, l'attitude du roi, il a changé, il aimait Daniel, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à tout le monde, vous devez adorer Dieu. Le Dieu est vivant. Je serai heureuse, vous savez, si notre président, au journal télévisé, dit, proclamerait, vous avez vu toutes ces églises évangéliques, tous ces chrétiens qui sont dans le pays, ils ont obtenu gain de cause dans telle et telle situation. Eh bien, vous voyez que leur Dieu est vivant, que leur Dieu est encore actuel aujourd'hui. Alors, bénissez ce Dieu. Ouh ! Est-ce que vous voulez avoir ce jour-là ? Que ce soit notre président actuel ou que ce soit un prochain président, mais si nous pouvions nous lever, Dieu veut une église victorieuse, Dieu veut des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, forts, remplis d'un esprit supérieur, qui montre à ce monde que Dieu existe, qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga. Amen. Vous voyez, quand les satrapes se sont ligués contre Daniel, quand on l'a mis dans la fosse au lieu, ils se sont frottés les mains, ils ont dit, c'est bon, Daniel est mort, il ne va plus nous importuner. Tout de suite m'est venue à l'image de la crucifixion de Jésus. Jésus était il ennuyait tout le monde, parce qu'il disait la vérité, c'était le Fils de Dieu, il prêchait l'évangile, le message du salut. On a voulu le tuer. On l'a crucifié. Tous ses ennemis se sont frottés les mains. Ils ont dit, c'est bon, Jésus est mort, on est tranquille. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire avec un Dieu vivant. Et que ce Dieu vivant a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons être ici assis et en train de le louer et l'adorer. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de le triomphe de Dieu. Alléluia. Jésus est vivant. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et dans le psaume 68, Dieu nous donne un ordre. Qui connaît le psaume 68? Et un ordre en deux mots. Personne? Oh, il n'y a pas de chrétien ici dans l'église. Alors, je vais vous le dire. L'Éternel t'ordonne d'être puissant. Sois puissant. Ça veut dire que Julien, tu dois être puissant. Noémie, Alice, Pierre, Louis, tout le monde, nous devons être puissants. C'est pas que les pasteurs et les responsables, c'est tout le monde. Et quand on sera tous puissants, notre président va voir quoi ? Des églises fleurir dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les régions. Et ça, c'est ma vision. C'est mon souhait. Et je veux être prophétique ce matin. Que tous les jeunes gens qui sont ici présents, là, je vois là-bas, toc, 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 là, ta, 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 et bien que sur eux, Dieu mette déjà maintenant un esprit supérieur. Amen. Et que cette église soit une église avec un esprit supérieur. Qu'on soit vise, c'est pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu, pour que le monde voit que Dieu existe. Et qu'on l'envoie des gens à courir, avoir faim et soif de Dieu. Et que l'on puisse voir ici des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, donner leur vie à Jésus, se repentir, mais vraiment avec force et authenticité, et dire « Jésus, mais j'ai manqué le coche pendant combien d'années ?» Mais il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, si tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire que Jésus parle, à l'instant même, il parle à chacun de nos cœurs. Alors, je l'ai déjà dit, nous servons le même Dieu que Daniel. Il est le même et aujourd'hui éternellement. Et cette histoire qui est de l'Ancien Testament, parce qu'il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Moi, j'ai choisi Daniel dans la fosse aux lions, mais on aurait pu prendre d'autres histoires. Il y en a plein dans l'Ancien Testament, il y en a plein dans le Nouveau Testament. Je vous invite à lire la parole de Dieu, à la méditer, à prier le Saint-Esprit pour qu'il nous donne la révélation, non pas aller sur Internet et ta-ta-ta-ta-ta, ah ben celui-là il a dit ça, d'accord, là, et je vais là, ta-ta-ta, ah celui-là il a dit ça, oh, mais c'est un peu contradictoire, non. Laissons, on devrait un peu laisser Internet de côté, prendre sa Bible en papier, là, moi j'ai une vieille Bible, bon, et j'aime bien parce qu'elle est souple. Je peux la mettre comme ça, comme ça, comme ça, c'est bon. Quand je suis dans mon lit, je suis comme ça. Enfin, bref. Mais j'aime bien. Mais on la lit, et ça, c'est une expérience forte à faire avec notre Dieu. Je prends ma Bible, je déconnecte tout. Toc, toc, le téléphone, l'Internet, la télé. Je prends un moment et je lis ma parole et je dis, Seigneur, tu sais, là, je ne comprends pas. Là, c'est un peu compliqué, mais donne-moi la révélation de ce passage. Et Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire, il est tout puissant. C'est sa parole et il nous aime. Donc, il ne veut pas que nous allions sur un chemin tortueux. Lui, il veut que nous soyons sur son chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il ne va pas nous donner une autre doctrine dans notre esprit, mais il va nous donner la bonne direction, la bonne interprétation. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller voir moi, je suis allée voir sur Internet pour quel âge avait Daniel, à quel âge il a été déporté, des choses comme ça. Bon, c'est pas toujours écrit bien, bon, j'ai été voir. Mais l'essentiel, la doctrine de Dieu, allons la chercher là dans sa parole et avec la révélation du Saint-Esprit. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abandonner dans les mains de notre Dieu. C'est la meilleure solution. S'abandonner, ça veut dire, je suis rien. Mon intelligence, je la mets de côté. Seigneur, que je m'abandonne à toi. Que veux-tu que je fasse? C'est un moment d'intimité avec notre Dieu. C'est un moment qui est un peu difficile parfois, s'abandonner. Mais après, Si je m'abandonne, qu'est-ce qu'il arrive après? Vous voyez, on réfléchit tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il connaît nos cœurs, il connaît tout, il connaît tout, il connaît tout. Ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut avoir des hommes et des femmes joyeux sur cette terre. Donc, quand l'adversité arrive, ne soyons pas effrayés. Soyons comme Daniel, on est serein. Waouh. Ne faisons pas comme moi, j'ai montré mon visage de mécontentement. Et après, je me suis pris une claque. Mais c'est toujours notre vieil homme qui revient à la surface. Et on doit toujours lutter avec notre vieil homme. Mais Dieu va nous rendre parfaits un jour. Amen. Alors, Dieu veut notre bonheur et on ne doit pas avoir peur de l'adversité, on ne doit pas avoir peur de l'épreuve. Dans l'épreuve, Dieu nous soutient, Dieu nous conduit. Il l'a prouvé dans cette histoire, on a bien vu dans l'histoire, il a prouvé sa fidélité, il a prouvé son amour. On peut avoir d'autres situations dans notre travail, dans notre foyer. Je pourrais dire plein de choses dans le travail. On a des chefs ou des patrons qu'on n'aime pas beaucoup, des collègues qui nous embêtent, qui nous tendent des pièges. Dans notre famille, ça ne va pas. Oh là là, il y a plein de choses. Mais Dieu est notre justice. Le mot de la fin, c'est « Je regarde à Dieu. Il a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a racheté. » Je loue Dieu, je l'adore, je le remercie, je lui remets toutes mes situations. Et Dieu, tu es ma justice, tu es mon avocat, interviens. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais notre confiance doit être là. Notre Dieu est un Dieu incomparable, notre Dieu est un Dieu inébranlable. Il est juste et il est le véritable. Amen. Ça nous concerne tous. Alors j'aimerais bien, Sandy, c'est toi qui es leader de louange aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prendre le chant « Je m'abandonne » de nouveau. Je m'abandonne. Et alors, on va tous se lever. Et on va chanter ce chant, je m'abandonne, avec ferveur et avec authenticité, avec simplicité. On va s'abandonner et on va s'attendre à Dieu. Amen. Alléluia.